Je vois des gens en sueur, ils se disent, ils prêchent pas souvent, et là il fait deux fois en deux dimanches. Je vous rappelle qu'un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Amen. On va repartager ce matin. Merci Seigneur encore pour la liberté que nous avons ce matin de partager ta parole, de pouvoir te louer simplement, librement Seigneur Jésus. Merci de continuer à impacter nos cœurs, à impacter nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, merci pour la saison dans laquelle nous sommes et nous te bénissons Seigneur Jésus. Permets-moi de partager ce que tu as mis sur mon cœur encore ce matin. Amen. Vous avez le bonjour, j'étais avec Johanna et l'équipe, il y avait 6 ou 7 filles plus moi, j'étais bien, mais c'est mon côté féminin qui est ressorti un peu plus, mais du coup j'étais avec elles jusqu'à hier après-midi, je suis rentré hier après-midi, elles y sont encore ce matin, c'est RJ 2026 en Suisse, un rassemblement, ça ressemble 6 ou 7 fédérations d'églises, donc c'est vraiment des gens de le spectre le plus large, on va dire. Il y avait plus de 2000 jeunes de 14 à 20 ans, et samedi soir, c'est Joada qui a fait la plénière. Il y avait des centaines de personnes qui se sont avancées pour répondre à l'appel de Dieu. Hier, elle a fait sur la vie de disciple, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, sur la vie de disciple, c'était un atelier, il y avait 2 ateliers en même temps, il y avait aussi beaucoup de gens. Et la vie de disciple, c'est les choses qui sont un peu moins, surtout pour des jeunes, un peu plus compliquées, parce que du coup, elle a expliqué qu'il fallait aimer, mais elle a aussi expliqué qu'il fallait obéir. Elle a expliqué aussi qu'il fallait porter sa croix. Et à l'appel, on a pareil des centaines de jeunes qui se sont avancés pour dire qu'on est prêt à... Voilà, de sortir de la timidité, de sortir des choses que vous voyez, de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu. Et je vais en parler tout à l'heure, mais honnêtement, quand vous êtes là, on se dit, mais on est fait pour ça. On est fait pour ça. Et vraiment, merci pour les frères et sœurs qui prient. Je pense que comme tout le monde ne sort pas forcément, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir, de ce qu'on peut apporter à gauche, à droite, quand on est invité, et vraiment, c'est une bénédiction. Alors, ce n'est pas parce que c'est mon épouse, c'est une équipe, mais réellement, j'ai les casquettes différentes, mais vraiment, c'est une grâce, et de voir ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours. La semaine prochaine, je pense qu'on aura des vidéos, etc. Et voilà, merci Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, il y a un tout petit lien avec ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde qui est complètement instable. Jusque-là, je ne vous en prends rien, on vit dans un monde qui est angoissant, qui est anxiogène, qui fait un petit peu peur à beaucoup de gens. C'est le monde dans lequel nous sommes. Alors l'autre fois, moi je disais à mon gamin, je suis désolé, j'ai l'impression que je vais te laisser un monde pire, encore pire que dans l'état dans lequel moi je suis arrivé, alors que normalement les parents laissent un monde meilleur à leurs enfants. Point de vue spirituel, je ne suis pas sûr. Point de vue spirituel, du coup, j'ai l'impression de lui laisser un monde un peu meilleur. En tout cas, j'y travaille tous les jours. Mais c'est clair qu'on vit dans un monde anxiogène, instable. Et cette instabilité, chez beaucoup, on n'aime pas. On préfère quand les choses autour de nous elles sont stables, quand on maîtrise un petit peu ce qui se passe autour de nous. Sauf que de plus en plus, on ne maîtrise rien autour de nous. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'y compris dans l'Église, il y a des choses qui changent. Y compris dans notre Église, il y a des choses qui évoluent. Et ça ne doit pas être un sujet de stress ou d'anxiété, mais au contraire de réjouissance. Et c'est ça dont je veux partager avec vous ce matin. Et souvent dans nos églises, ou souvent quand on voyage dans des plus petites assemblées, on se rend compte que les gens, ils sont bien. On est bien, parce qu'on connaît tout le monde. Et si jamais il y a des gens nouveaux, ben, il y a un côté où on se réjouit parce qu'il y a des gens nouveaux, et il y a un côté où on se dit, ouais, mais déjà que j'ai du mal à dire bonjour à tout le monde, là, il y a encore quelqu'un, il faut que je sorte de ma carapace pour aller dire bonjour à quelqu'un que je ne connais pas, qui en plus, il est peut-être différent de moi, peut-être qu'il arrive avec des grandes souffrances, des grandes difficultés, et parfois, on le sent quand on arrive, on a des endroits où on a l'impression que c'est bien si ça reste comme ça. Et je ne pense pas que ce soit le cœur de Dieu. Même, je suis sûr que ce n'est pas le cœur de Dieu. Sujet du jour, alors c'est croître, c'est pas croire, hein. C'est pas croire ou ne pas croire, hein. Croître. Croître, ça veut dire grandir, ça veut dire progresser, ça veut dire avancer. Et c'est ça que j'avais à cœur de partager ce matin, croître ou ne pas croître, avec l'idée que la réponse, normalement, vous l'avez déjà en tête, juste avec mon introduction, c'est que c'est le premier mot qui est important. Le deuxième, c'est juste pour la figure de style un petit peu. 2 Pierre 3, verset 18, c'est à la fin de l'épître de Pierre, de la deuxième épître de Pierre. On est vraiment à la toute fin. Et en général, quand vous finissez un courrier, je ne sais pas vous, moi j'écris cordialement, bien cordialement, si c'est quelqu'un que j'aime un peu plus, Amitié, si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fraternellement, si c'est un frère de l'Église. Et j'ai l'impression d'avoir toutes mes formules un peu comme ça. Et là, mais c'est des formules pour dire au revoir, à bientôt, un truc comme ça. Vous voyez, quand on écrit à la fin d'un mail ou d'un courrier, salutations, etc. Là, Pierre nous dit, mais croissez dans la... Donc on est tout à la fin. Vous imaginez que c'est la fin d'un courrier. D'accord ? On aurait pu dire salutations fraternellement. Avec un point, avec un sous-entendu, c'est fini. Et là, Pierre nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je le dis souvent, il n'y a pas un mot qui a été écrit par erreur dans la Bible. D'accord ? Donc vous allez chercher, on va le chercher en grec s'il faut, mais il n'y a pas de mot en plus ou en moins où il y a une erreur sur les grosses choses. Il n'y a aucune erreur, mais dans les traductions, parfois, il y a des petites choses où on peut affiner. Mais là, quand c'est marqué comme ça, le « mais » du départ, il veut dire qu'il est en opposition par rapport à ce qui a été dit avant. Si je mets « par ailleurs » ou si je mets « et » au début d'un verset, c'est que j'ajoute une condition, j'ajoute quelque chose par rapport à ce qui a été partagé avant. Si la phrase, elle commence par « mais », c'est « si je te dis « je suis content de te voir, mais » tu sais que derrière, il va y avoir quelque chose. C'est « si je te dis « est-ce que tu as amené le gâteau et les fleurs ?» le « et », tu sais qu'il va y avoir quelque chose en plus du gâteau. Si je dis « je suis content de te voir, mais » tu sais que derrière, il... opposition par rapport à la... Ça va, prof de français, ça va à peu près ? Ouais, ça me fait peur. Normalement, maintenant, plus personne. Il y a des fautes de partout. Hier, il y avait des fautes de partout. Je voulais leur dire, mais je n'ai pas osé. Mais normalement, maintenant, le français, comme le niveau baisse, normalement, les explications suffisent. Mais voilà, la phrase commence par un mais. Et le mot d'après, croissez. Je crois que je l'ai mis en grec. Anzadete, Nouveau Testament écrit en grec, version originale en grec, donc traduit aujourd'hui, 31 en français. Donc croissez, comme c'est une grosse partie du cœur de mon message, je vais chercher le mot grec pour voir s'il y a une signification, s'il y a un petit mot en plus. Si vous ne voulez pas le chercher en grec, vous pouvez aussi lire dans les différentes versions de la Bible. Aujourd'hui, vous avez accès à tout ça facilement, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot en plus de ce qui nous échappe, juste à une lecture rapide. Ce mot, il veut dire croissez, grandissez, augmentez. Croissez, grandissez, augmentez. Point de vue spirituel, ça veut dire progresser, mûrir, se développer. C'est ça que ça veut dire. Et le temps qui est donné, c'est que c'est un impératif. Impératif, ça veut dire que c'est un ordre. Ça veut dire qu'on te dit « allume la lumière ». Allume la lumière, c'est un impératif. Quand il y a marqué « grandissez », c'est un impératif. C'est un mélange de conseils, mais fortement d'ordre. Impératif, allume la lumière. Si tu dis allume la lumière, ça veut dire que je te demande d'allumer la lumière. Pierre, là, nous dit croissez, grandissez, maturez, progressez. C'est un impératif. Ce n'est pas quelque chose où je peux décider. Ce n'est pas quelque chose où je dis j'y crois pas, j'obéis, j'obéis pas. Le temps du verbe nous dit que c'est un ordre. Croissez, maturez là-dedans. C'est un pluriel. Alors ça, je le prêche assez souvent, mais je trouve qu'on ne l'a pas encore assez intégré et acquis. En anglais, quand tu dis « tu » et « vous », ça n'existe pas. Ils disent « you ». Je dis « you », toi que je te connais, toi je te tutoie, Christophe je te tutoie. En anglais, je te dirais « you ». Si j'avais un président de la République que je ne tutoie pas, je lui dirais « vous ». Mais en anglais, je lui dirais « you ». Les anglais, c'est bon aussi. Sauf que nous, en français, on a tué. Alors, c'est bien ou pas bien, ce n'est pas la question. Mais nous, on a tué vous. Et dans la Bible, on prend beaucoup de versets où il y a marqué vous et on pense que c'est pour moi. Parce que Dieu ou ceux qui ont écrit la parole sont polis avec moi, ils me vous voient. Ce n'est pas vrai. C'est un vous pluriel. C'est un vous collectif. Quand il y a marqué croissez, c'est pas parce qu'il s'adresse que, alors je suis désolé, en même temps vous êtes au premier rang, mais c'est pas croissez Christophe, c'est pas parce qu'il est encore plus poli avec toi et qu'il te vouvoie. Quand il dit à Christophe croissez, c'est que le courrier ne s'adresse pas à toi, il s'adresse à tout le monde. Mais s'il s'adresse à tout le monde, il s'adresse en particulier à toi, mais aussi à tout le monde. C'est bon ? Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois on prend des versets et on pense que c'est pour moi, que pour moi. Et moi je suis un peu le chouchou. Alors que c'est des versets qui trouvent leur accomplissement dans la communauté, dans le collectif. Je reformule, on a parfois des versets où on se dit « ça c'est pour moi, c'est pour ma vie », et surtout dans nos milieux évangéliques un peu trop charismatiques, où on prend le verset et on se dit ah, « vous voyez, c'est pour moi ». Oui, mais, merci, il y en a un qui suit, un ou une. Oui, mais c'est que c'est un collectif. Donc il y a des exaucements qui ont lieu en communauté, pour l'Église, pour la famille, pour le peuple de Dieu. Et je ne peux pas me dire « ce verset, il s'applique pour moi tout seul ». Peu importe les autres, peu importe si je ne vis pas en communauté, peu importe si je n'obéis pas à Dieu, peu importe si je ne vis pas en vie d'église. Je suis désolé, il ne s'accomplira pas ce verset. Est-ce que ça c'est bon? Et je me suis posé la question, les pays anglophones, ce problème, ils ne l'ont pas en fait. Ils ne se sont jamais posé la question comme ça. C'est une question. Bon, on en parle après. Le « vous », il s'adresse à toi en particulier, mais il s'adresse en premier au collectif. C'est bon ? Parce que dans le croisé, je ne vais pas trop loin, mais c'est quand même une interprétation, dans le croisé, c'est presque sous-entendu, ensemble. Si tu es tout seul, ça va être compliqué. Il n'y a pas marqué « grandi », il y a marqué « grandissez ». Il n'y a pas marqué « progresse », il y a marqué « progresser ». Parce que je crois réellement que ce verset nous dit « on va grandir parce qu'on est ensemble ». Parce qu'on le vit en communauté. Ça fait partie du chemin de croissance. Et quand je rencontre des frères ou des sœurs, pas ici, bien sûr, quand je rencontre des frères et sœurs qui me disent « j'ai pas besoin de l'avis de l'église locale », ben c'est pas vrai. Il y a toute la moitié ou les trois quarts de la Bible qui ne s'appliquent pas. D'accord ? Donc le croissé, il est pour toi. On s'attend à ce que tu grandisses. Et il est pour nous. Et il va s'exercer, il va s'accomplir parce qu'on est ensemble. C'est bon pour ça ? Je continue là-dessus, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance. La foi chrétienne, il faut comprendre que ce n'est pas statique. On ne peut pas se dire un jour, c'est bon, j'ai acquis ce que j'avais acquis, c'est acquis. Vous savez, on passe pas un examen où on se dit, jusque-là, je sais, j'ai 80% de bonnes réponses, c'est bon, j'ai les bases de la vie chrétienne, c'est bon. La foi chrétienne ne peut pas être comme ça. Or, parfois, on se dit... Je suis passé par les eaux du baptême, j'ai essayé de régler les grands sujets de ma vie. Ma vie avec Dieu, c'est bon ma vie avec Dieu. Ça ne marche pas. Je vous l'annonce, si ceux qui n'en ont pas conscience, ça ne marche pas. Et Mélanie, elle a prié un peu dans ce sens tout à l'heure pendant la louange, c'est que c'est comme si Dieu il nous réalignait. Dieu il nous réaligne avec ça. Et ça crée une instabilité. Et ça participe à, ouais, il y a encore ça à progresser dans ma vie, il y a encore ça que Dieu veut toucher, il y a encore ça où il faut que je grandisse. Je te l'annonce, oui, oui. Et ça, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Donc la foi chrétienne n'est pas statique, et dans cette notion de ce verset, croissez, processus de croissance continue. Je répète, c'est un processus, donc un processus, c'est des choses mis bout à bout, continuellement. C'est un processus continuellement de croissance. C'est bon ? Et si vous regardez la nature autour de vous, vous regardez les plantes, vous regardez plein de choses, ça ne s'arrête pas de grandir ou d'évoluer ou de croître. Il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon. La taille adulte atteinte, même l'arbre, même l'animal, il continue de croître. C'est bon ? La Bible version semeur, elle nous dit progresser sans cesse. Le semeur, c'est, comment on dit ? La paraphrase. La Bible du semeur, c'est paraphrase, c'est comme un peu en français courant, mais ça rajoute un petit peu des choses pour comprendre. C'est pas mal de le lire, il ne faut pas lire que ça, mais par contre, de temps en temps, d'aller chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus, parce que ça nous aide, je trouve que ça nous aide à réfléchir. Progresser sans cesse. Amen. Sur ce verbe, je le dis quand même, sur ce verbe de croisser, dans cette forme-là en grec, il n'apparaît nulle part ailleurs dans l'Évangile. Le verbe apparaît ailleurs, puisque c'est le même verbe qui est utilisé pour dire quand il grandissait, quand il grandit, quand il croit, quand il progresse. C'est le même verbe, il est utilisé plein d'endroits. Par contre, dans cette forme-là grecque, avec cet impératif et cette forme-là, il n'est que ici. Donc je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, parce que c'est pour aussi un message très particulier par rapport à ça. Je reviens sur 2 Pierre, on est à la fin de la lettre. Je nous ai dit tout à l'heure, on a discuté de ça, j'ai discuté de ça. On arrive à la fin. À la fin, normalement, on dit au revoir. Sauf que là, il ne dit pas au revoir. C'est comme une injonction. C'est comme, il y en a qui passent le bac de français, je crois. C'est comme si à la conclusion, quand on était petit, on nous apprenait qu'il fallait faire une conclusion qui ouvre un peu. Vous savez, qui ouvre le sujet. Pas juste je conclue ce que j'ai dit, mais j'ouvre ce qui va se passer après ou ce qui pourrait se passer après. Et là, dans la fin de son courrier, c'est exactement ce qu'il fait Pierre. Il ne conclut pas tout ce qu'il a dit. Il ouvre une brèche pour la suite. Et c'est la suite, c'est nous. Là, c'est vous et moi, c'est nous. La suite, c'est nous. C'est croiser, c'est pas fin de la lettre, Jésus revient bientôt, amen. Il y a ce mot, ce dynamisme, j'allais dire, il y a une conclusion dynamique qui nous dit croiser, progresser, qui nous invite à ça, qui nous ordonne de ça. Amen. Et en plus, je vous invite à relire, vous pouvez relire le chapitre en entier, c'est qu'à un moment donné, Pierre, il parle des moqueurs, des gens qui méprisent tout ça. Et on a l'impression que, et sur la fin des temps aussi, Pierre, il explique ce qui va se passer. Il va y avoir un déclin. Il va y avoir un déclin spirituel, un déclin moral autour de nous, un déclin. Et en même temps, il dit, vous progressez. C'est comme si vous aviez... Alors là, c'est plus la partie prof de maths. Oh, je vais avoir un retour. Non, ce n'est pas les profs de maths, oubliez. Vous avez une courbe qui descend et vous avez une courbe qui monte. Le déclin, il va être comme ça. Et nous... Ça fait dans le même sens, hein. Oui, pour ça, c'est bon. Ça descend. Et pour nous, progresser. D'accord ? C'est bon ? J'insiste, mais parce que quand on le relit, même si ce n'est pas maintenant, même si c'est dans 6 mois ou dans 3 mois que vous allez relire ce verset, vous allez vous rappeler de petits mots parce que vous dites qu'il a tellement insisté que je ne peux pas oublier. Mais croissez dans quoi ? Croissez dans la grâce et dans la connaissance. La grâce, relation vivante avec Dieu. Grandissons là-dedans, dans leur relation vivante avec Dieu. C'est lire la Bible, c'est parler à Jésus-Christ, c'est entendre la voix du Saint-Esprit, c'est avoir une conscience renouvelée, c'est tout ça. Et croissez dans la connaissance. Dans la connaissance, Dieu nous encourage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est Pierre qui nous le dit, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire, alors évidemment, lire la Bible, mais lisez aussi des livres, des bons livres qui nous expliquent des choses, avec des gens qui vont prendre peut-être un détail, mais ça va tellement nous parler. Ça nous fait grandir en connaissance de Jésus-Christ. Amen. Je finis ce verset-là et cette première partie, que croître ou ne pas croître, clairement, et là je vous ai pris un verset, j'ai mis l'accent dessus, mais il y a plein d'endroits dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut croître. Ce n'est pas une option. Même si... J'ai compris ça quand on a fait ACBM Campus. Même s'il y a des gens qui ont besoin d'être sécurisés, qu'on explique tout ça en se disant « mais on est bien entre nous, on est bien ». Ou alors dans l'état dans lequel je suis bien. Vous n'avez pas normalement un enfant à 10 ans qui se dit « j'arrête de grandir ». Ça n'arrive pas. Ou sinon, c'est qu'il y a un problème de santé. Ça n'arrive pas parce que c'est naturel et c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ben, c'est pareil dans notre vie avec Dieu. Et je ne voudrais pas qu'à un moment donné, on pense... C'est bon, j'ai assez de connaissances. Alors, on ne se le dit pas forcément, mais c'est bon. Comme je suis là, c'est bon. L'Évangile nous dit le contraire et il nous dit de croître et de progresser sans cesse, continuellement. Amen. C'est bon ? On continue ? Donc, premier point, croître, impératif. Nous devons croître. Deuxième idée, quelques étapes et quelques seuils de croissance. Deux sous-idées à l'intérieur, une partie qui concerne ma personne, une personne physique, donc vous, moi, toi, moi, etc., ton voisin, une partie qui concerne l'Église, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de voir les deux en parallèle. Je nous lis 3 passages bibliques, et après je vais expliquer. Je vous ai pris 3 passages, mais il y en a plusieurs, et je vous ai mis une image où vous avez un enfant, bébé, enfant, jeune homme, adolescent, et troisième, adulte ou père. Selon les passages dans la Bible que vous lisez, ce n'est pas tout à fait les mêmes termes qui sont utilisés, mais en gros de se rappeler qu'il y a 3 catégories. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Quand on explique comme ça qu'il y a 3 catégories, on va le voir dans les versets bibliques, mais ce n'est pas des choses étanches. C'est pour expliquer des concepts. Parfois, on dit, voilà, il y a les enfants, les jeunes hommes, les adultes, pour expliquer, mais ce n'est pas étanche. Quand est-ce qu'on est un jeune homme, quand est-ce qu'on est un adulte, quand est-ce qu'on est tout ça. Voilà. Mais je le dis parce que parfois, quand on partage des choses, on pense que ça va de là à là, et puis là, on est dans l'autre catégorie. C'est parfois pas comme ça. C'est bon ? J'ouvre une deuxième parenthèse que je referme dans la foulée. Il y a beaucoup de cultures, et c'est intéressant parce que j'avais lu des livres là-dessus, il y a quand même beaucoup de cultures où, par exemple, de jeune homme à adulte, ils font ce qu'on appelle un rite de passage. Vous avez ça dans la tradition, dans le judaïsme, mais vous avez ça dans énormément de cultures. Et moi, je l'avais vu sur des Zoulous en Afrique du Sud. En fait, des Zoulous qui étaient chrétiens. Et eux, ils continuaient à faire le rite de passage parce que dans la culture, c'était très important. Mais ils l'avaient modifié. La modification, au lieu de faire les ancêtres, les esprits, les choses comme ça, la modification a été simple. Ils jeûnaient et partaient 2 ou 3 jours sans rien à manger. Alors, je ne sais plus s'il y avait une arme pour tuer. Mais voilà, ils partaient 3 jours. Et quand ils revenaient des 3 jours, donc avec jeûne et quelque chose pour essayer de tuer des animaux pour manger, et quand ils revenaient, la communauté considérait qu'ils étaient passés de l'âge jeune homme à adulte. Et de ce que j'avais lu aussi, il paraît que c'est pas mal non plus parfois de le matérialiser. Mais c'est... Je referme la deuxième parenthèse, si vous avez suivi. C'est bon ? On va lire ensemble des passages. J'en ai pris 3, mais il y en a d'autres. Éphésiens 4, verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » 1 Jean 2, vous les aurez après. 1 Jean 2, verset 13 et 14. « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. » Je vous écris petits enfants parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Ce n'est pas moi qui ai lu 2 fois, hein. C'est 2 versets qui se suivent, qui se répètent à pas mal. Ce n'est pas moi qui ai lu 2 fois, ce n'est pas une coquille. Hein. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Ça, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui vous dis ça. Mais vous êtes devenu lent à comprendre, point. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, versets 11 à 14. Les 3 étapes là, c'est pour nous, voilà, pour partager avec vous, ce n'est pas lié à l'âge. Dans le naturel, c'est lié à l'âge. Enfant, c'est qu'on est en bas âge, moyen âge, enfin, âge du milieu et âge plus avancé. Dans le spirituel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lié à notre âge physique. On est d'accord ? C'est lié à notre maturité. On a des enfants spirituels qui ont 65 ans parce que c'est la première fois qu'ils entendent parler de Dieu, ils donnent leur vie à Dieu. Oui ? On a des gens qui sont matures, des choses de Dieu, qui sont pères et qui ont 30 ans. Est-ce que c'est bon pour ça ? Ce n'est pas lié à l'âge. On a donc petits enfants, jeunes gens et les pères. Petits enfants, c'est ce qu'on va appeler les nouveaux croyants, les gens qui font une démarche avec Dieu, les nouveaux croyants. Les jeunes gens, c'est les croyants en croissance. Et là, il parle pas mal du engagé dans le combat spirituel. Et les pères, c'est plutôt les croyants matures, expérimentés dans la foi. Ce n'est pas père parce qu'ils ont eu des enfants, c'est père par rapport à la notion d'âge. C'est bon ? De maturité. On reprend les 3. Vous connaissez le Père, ça c'est ce qui est dit. Je ne l'ai pas pris dans l'ordre, hein, mais je le reprends dans l'ordre de la croissance. Pour les petits-enfants, il marque « vous connaissez le Père ». Relation simple, de confiance. C'est un enfant avec son papa. Cela parle de notre début de vie. Début de vie, vous prenez un enfant, je ne veux pas me tromper dans les âges. À 6 mois ou 1 an, normalement ils ne sont pas propres. On est d'accord ? Ouais, ça c'est sûr. 6 mois ou 1 an, ils ne sont pas propres. Normalement, à quelques années, ils appellent quand ils ont besoin qu'ils soient allés aux toilettes. Mais si à 15 ans, ils vous appellent parce qu'ils vont aux toilettes, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça peut être un problème de santé, on est d'accord, j'enlève le problème de santé. Mais si à 15 ans, un gamin appelle ses parents parce qu'il va aux toilettes, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est bon ? Donc là, on est sur les enfants, comme les relations des petits-enfants, les jeunes dans la foi, on a l'impression qu'ils connaissent leur papa. En tout cas, ils apprennent à connaître leur papa, Dieu comme leur papa, qui répond à leurs besoins. La définition d'un enfant, c'est qu'il est dépendant. Tout doit être fait par quelqu'un d'autre quand ils sont petits. C'est pour ça que ça épuise les parents. Donc, c'est bon ? Quand il est petit, tout doit être fait par l'autre. Et je trouve, mais ça c'est aussi une interprétation, que parfois, Dieu il nous parle plus clairement quand on est petit enfant. Si vous vous rappelez votre conversion, on a l'impression, parfois, Dieu il nous parle très clairement au début de notre vie avec Dieu. Ça ne vous l'a pas fait, ça ? Moi, j'ai l'impression qu'il m'a, j'ai eu des... Il me parle aujourd'hui, mais c'est comme si c'était encore plus audible. Et c'était plus audible parce que je ne connaissais pas. C'était comme très audible, des choses précises. Mais de la même manière que quand vous avez un gamin d'un an, c'est vous qui vous faites tout. Donc du coup, on fait tout, et le gamin, alors, il ne s'en rend pas compte, il n'est pas encore reconnaissant, parfois ils ne le sont jamais, mais à un an, ils ne le sont pas. Mais du coup, c'est vous qui faites tout. Et là, quand on est au début de notre vie avec Dieu, j'ai l'impression que c'est pareil. Nous, on croit qu'on a répondu à l'appel de Dieu. C'est pas un secret. En fait, c'est lui qui a tout fait. Mais du coup, cette démarche-là, dépendant par rapport à Dieu, la foi, elle est souvent sincère, mais simple, assez simple. Je passe aux jeunes gens, dans ce verset-là, vous avez vaincu le mauvais. Le mauvais, ça représente Satan. On a l'impression que c'est un peu comme une deuxième étape de notre vie avec Dieu, où les gros péchés, les grandes choses, il a fallu combattre avec Dieu. Il a fallu les vaincre pour arriver à une certaine maturité. On a l'impression que là, au début, on ne s'est pas rendu compte de tout ce qui n'allait pas dans notre vie. Et après, comme on commence à connaître, à marcher un peu plus avec Dieu, là, Dieu, il pointe des choses. Et gentiment, mais c'est dit. Gentiment, mais c'est pointé. Gentiment. Et là, on combat avec le malin pour sortir de ces choses-là. Je veux dire, ça, c'est plutôt la partie jeunes gens, actifs dans le combat spirituel. Ils apprennent à résister au péché, on apprend à résister aux tentations. La croissance spirituelle, elle implique ce combat-là. On ne peut pas y passer à côté. Et puis, il y a les pères où on dit « Vous connaissez celui qui est dès le commencement ». On peut se dire « Qu'est-ce que ça veut dire ? On connaît celui qui est dès le commencement ». À partir du moment où on est comme un peu sur la troisième étape, où il y a une maturité qui est là. Quand on dit « dès le commencement », c'est qu'en fait, Jésus, il a toujours... Dieu, Jésus, ils ont toujours été là. Il n'y a pas eu un début. Donc, quand il nous marque qu'on le connaît dès le commencement, c'est qu'on a une connaissance des choses de Dieu qui est plus mature, qui est avancée. Amen. C'est que là, on a l'impression qu'on le connaît. C'est souvent le verset qu'on dit, on est assis. Il y a une partie, on est assis avec Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de combat, ce n'est pas ça. Mais il y a une maturité qui est là, il y a une stabilité qui est là. On est assis avec Dieu. On n'est plus à dépendre, à tout le temps avoir besoin d'entendre sa voix. Il y a des choses, vous les savez. Il y a des choses aujourd'hui, normalement, on ne le répète pas si le gamin il a 15 ans. Si à 20 ans, on répète qu'il doit se brosser les dents, à 20 ans, normalement, il comprend. Bon, si à 20 ans, on répète qu'il doit se brosser les dents tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, Dieu, c'est pareil avec vous, avec moi. Réellement. C'est-à-dire que Dieu, si aujourd'hui, il a besoin de me répéter des choses que ça fait 30 ans qu'il me les a dites, et que depuis 30 ans, il me les a déjà dites, à un moment donné, le problème, il est chez moi, il n'est pas chez Dieu. D'ailleurs, le problème, il n'est jamais chez Dieu. Mais là, il est encore plus chez moi. C'est bon avec ça ? Vous voyez où je veux en venir ? C'est après que qu'on se fait disputer, c'est après. Donc, trois étapes. Petits enfants, et encore une fois, c'est pour expliquer, ne me dites pas, il y a un trait net. Voilà. Petits enfants, jeunes gens, pères. Première, ce qui est écrit dans la case, c'est ce qui les caractérise. Petits enfants, ils sont dépendants, ils sont influençables, il y a peu de discernement. Jeunes gens, il y a une foi en croissance, ils sont plus forts et il y a la parole qui demeure en eux. Et père, il y a un discernement, une stabilité, une sagesse, une expérience. Et ce qui est écrit en dessous, c'est comment est-ce qu'on peut évoluer ? Comment est-ce qu'on peut grandir et passer de l'un à l'autre ? Ben, le premier, quand on est un petit enfant, la base, apprendre la parole. Être enseigné, c'est comme un petit enfant qui est nourri par quelqu'un d'autre. À 3 ans, il ne prépare pas le repas. Bon, à 2 ans, c'est sûr qu'il ne prépare pas le repas. Jeunes gens, parce que je vois qu'il y a toujours un qui est un enfant précoce, haut potentiel, qui va me dire à 3 ans, il a préparé à manger. Non. Jeunes gens, s'enraciner, développer la constance, approfondir la relation. Ça, c'est pour les jeunes, l'étape d'après, jeunes gens. Et les pères, persévérer, enseigner les autres. Et j'aime beaucoup aussi la suite, rester vigilant. Et humble. Est-ce que ça, c'est bon ? C'est bon avec ça ? J'aurais pu vous poser la question, comment vous vous situez ? Je vous laisse répondre devant Dieu, chacun, chacune, parce qu'on va voir que... Ouais, je ne vais pas dire la fin, on va voir après. C'est bon pour ça ? Et en deuxième, et vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir, alors si ça a à voir, c'est qu'en deuxième, je voulais vous donner quelques étapes de croissance d'une église. Alors, c'est complètement inspiré d'un livre, et je l'assume complètement. Christophe Short, qui était un pasteur, mais c'est le premier qui est venu dans notre église. On est rentré en novembre 2017 dans la salle, et je crois que le deuxième ou troisième culte, il était là, de mémoire, deuxième ou troisième culte. Et maintenant, il est auprès du Seigneur depuis quelques courtes années. Il était en région parisienne. Il y en a qui étaient là quand il était à Christophe Short. C'est celui qui avait parlé de la croissance d'église. Et eux, ils ont déménagé quasiment chaque année pendant 7, 8 ans, 10 ans. Ils déménageaient de locaux parce que leur église grandissait. Donc grandissait en nombre. Il y avait trop de monde, donc du coup, ils ont été obligés de... Voilà. Et je crois que c'était dans les Cévennes pendant les vacances. Je crois qu'il a réfléchi, puis voyagé, enfin, peu importe, mais il a cherché les ressources pour savoir s'il y avait un peu des... Notamment dans le monde français, un peu comme des étapes de croissance dans l'église. C'est-à-dire qu'en termes de moyenne des gens dans l'église au culte, est-ce qu'il y aurait des seuils de croissance? C'est bon? Alors je vois qu'il y a des gens, ça ne vous intéresse pas du tout, mais si, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est super intéressant, et aussi de comprendre ce que ça veut dire. Parce que nous, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans, mais on est en plein dedans depuis des années. Et du coup, ça fait cette instabilité dont j'ai parlé en introduction. Ce n'est pas une instabilité, mais ça fait une... C'est pour ça qu'on est en retard sur tout, pour faire simple. L'autre fois, on était à la préparation baptême, et il y a une sœur où je dis qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'on fasse, et la sœur me dit, mais on a l'impression que ça tourne, que l'Église, ça tourne. Alors oui, merci Seigneur, l'Église, elle tourne. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Énormément de choses. Et alors, peut-être parce qu'on est les responsables, et nous, c'est évident pour nous. Je pense que c'est évident aussi pour une certaine partie des gens. Et aussi parce que l'Église grandit, donc avec des nouveaux défis, des nouveaux sujets de réjouissance, d'excitation, et de combat, et de tout à la fois. Amen. On descend ensemble. Monde francophone, un petit peu des seuils. Je crois que je les ai mis. Si tu veux les mettre, mais vous m'écoutez. Ah, vous y voyez, ouais, vous voyez que le chiffre. Ben, c'est bon, comme ça vous m'écoutez. 12 personnes, c'est un groupe de maison. Donc si vous avez une église qui se crée, ou un petit groupe de 12 personnes, c'est la taille à peu près d'une cellule de groupe de maison. C'est là où les relations sont satisfaisantes. En fait, tout le monde connaît tout le monde, on a des bonnes relations. John Wesley, prédicateur anglais, lui, il avait fait des classes. Il appelait ça les classes, et ces classes-là, c'était pareil, c'était à peu près le même nombre de personnes. Au-delà de ce nombre, il y en a qui ne participent plus. D'accord ? C'est pareil dans un groupe de maison. Vous êtes 20 dans un groupe de maison, ben vous êtes sûr qu'il y en a 4-5 qui ils sont toujours là, mais ils participent beaucoup moins. 12 personnes, 12 jusqu'à 20. 50 personnes, une église de 50 personnes, ce qui est quand même beaucoup d'églises en France aussi, de l'avoir en tête. 50 personnes, c'est ce que lui, dans le livre, il appelle un clan. C'est une famille élargie. Responsable, souvent, il y a un côté un peu patriarche. Le culte peut être de manière informelle, familiale. Et beaucoup d'églises ne dépassent pas ce nombre. Et alors, cette phrase, elle n'est pas de moi. C'est grâce au pasteur qu'on est 50, et c'est à cause de lui qu'on est 50. Dans une église de 50 personnes, c'est grâce au pasteur qu'on est 50, et c'est à cause de lui qu'on est 50. Enfin, ce n'est pas pour incriminer les pasteurs, c'est juste pour comprendre les choses. De 80 à 150 personnes, il appelle ça l'église tribu, c'est que les relations sont un peu plus distendues. Il y a encore la notion d'appartenance. Souvent, il y a un pasteur à temps plein. Tout le monde connaît tout le monde. Il y a un sentiment unitaire, il y a un accent communautaire, on est ensemble. Ça, c'est de 80 jusqu'à 150 personnes. Dans ces églises-là, ils disent que le plus important, c'est les visites pastorales. C'est-à-dire que les gens, ils pardonnent si la prédication est pourrie du moment que j'ai été visité. Un gros accent mis sur les visites pastorales. Seuil de 150 personnes, c'est bien aussi de l'avoir en tête. Ils disent qu'au niveau du cerveau, au niveau cognitif, c'est le nombre de personnes pour entretenir des relations. Jusqu'à 150, on peut se connaître. Au-delà de 150, on ne peut plus se connaître tous ensemble. D'accord ? Et donc ça fait partie de ces chiffres dans nos têtes, consciemment ou inconsciemment, où on a peur d'être plus. Parce que je me dis, si demain on est plus de 150, je ne connaîtrai plus tout le monde. Alors que moi, j'aime bien connaître tout le monde. Je veux avoir des gens que je ne connais pas, qui sont différents de moi, qui vont m'embêter. Là, je suis bien, je connais tout le monde. C'est bon ? 225-400, c'est ce qu'ils commencent à appeler une église bataillon. Je crois que c'était... Alors 152, pardon, je reviens à la tranche d'avant. Je crois que ça, 150-200, c'est pour les compagnies, je crois, pour l'armée, c'est les bons chiffres. Je crois que les Romains à l'époque, dans son livre, il marque que les Romains à l'époque, ils avaient calculé que c'était le bon chiffre pour un capitaine. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil dans l'armée, c'est une garnison. Je crois qu'il y avait un chiffre de 150-200 à un moment donné où c'était un bon chiffre par rapport au nombre de soldats avec le responsable qui dirigeait cette unité-là, cette partie-là. Je cherche le mot, il va me revenir, mais compagnie. Peut-être compagnie. 225-400, on passe des seuils. C'est ce qu'ils appellent une église bataillon. Nous, on est là-dedans. Alors, on n'est pas aux 400. Hein. En moyenne occulte, on n'est pas aux 400. On est plutôt sur la fourchette basse de ce chiffre-là. Mais c'est comme si tout n'est pas encore ancré dans le fait d'être dans ce type d'église-là. Tout n'est pas ancré parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a à chercher la pensée de Dieu sur certains sujets. Mais en tout cas, on est plutôt sur la fourchette basse, mais on est là-dedans, dans cette catégorie-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il dit que là, ça change vraiment de division. Ce n'est pas de l'orgueil, hein, c'est des compréhensions, on est bien d'accord. Mais ça change de choses, ça change de manière de faire. Et je me rappelle, parce que quand Christophe Short il était venu ici, on avait discuté longtemps, et il m'avait dit, parce qu'avant, alors beaucoup le savent, mais je pense qu'une partie de maintenant ne le sait plus, c'est qu'avant, on était des nomades. Avant, tous les dimanches, on louait une salle des fêtes. Avant, tous les dimanches, vous vous en rappelez, hein, ceux qui ont fait le ménage jusqu'à 15h, 16h, 17h, parce qu'il fallait rendre la salle le soir. Donc, il fallait y aller tôt le matin, monter la batterie, installer les chaises, faire le culte. Et après, il fallait ranger les chaises, faire le ménage, rendre la salle propre. Donc, en gros, tu partais le matin, ceux qui étaient de service, je ne sais pas, ils devaient partir à 7h30, 8h même avant, et vous rentriez à 15h, 16h. Voilà. Donc, quand de temps en temps, on dit, ouais, il y a 50 chaises à déplacer, ça va aller. Et en fait, Christophe Short, quand il est arrivé dans les locaux ici, on venait de rentrer ici, et il m'a dit, Pierre, attention, parce que les gens de l'église, ils ont été habitués à une église nomade. Et là, vous rentrez avec un bâtiment. La visibilité n'est pas la même. Et en fait, tu ne passes pas d'une tribu nomade à une tribu qui a une maison. Donc il m'a dit, il y a beaucoup de choses. Et il m'a dit, ça va prendre un an ou un an et demi pour que les choses se mettent en place. Parce qu'il y a plein de questions qu'on ne s'était jamais posées. Le bon truc, c'est qu'on s'est dit, c'est génial, le ménage, on n'a plus à le faire après le culte. Ça, c'était le côté que tout le monde s'est dit, c'est génial. Contrepartie, quand tu habites à 30 km, eh ben, tu vas revenir une fois dans la semaine, faire 30 bornes juste pour faire le ménage. D'accord ? Et en fait, des sujets comme ça, j'ose pas dire, mais il devait y en avoir 150 ou 200. Des questions qu'on ne s'est jamais posées. En fait, vous arrivez du jour au lendemain avec des questions que vous n'êtes jamais posées à résoudre. C'est bon ? Et du coup, sur la partie aujourd'hui 225-400 personnes, dans son bouquin, il explique qu'il y a 6 caractéristiques et ça change certaines choses. Et aujourd'hui, voilà, je partage là-dessus, je pense que c'est des choses où on reviendra de temps en temps là-dessus, parce que ça change certaines choses. D'abord, il marque un ministère spécialisé. En fait, quand nous sommes dans une église de 50 personnes, on peut pas avoir. Aujourd'hui, il y a Denis qui est pour les 80 ans de son papa. Donc, il nous a dit est-ce que ce week-end, je peux ne pas être là ? Évidemment que tu peux ne pas être là. Mais pourquoi il peut ne pas être là ? Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent gérer le culte. Pourquoi Johanna, elle peut ne pas être là ? En plus, à 6 ou 7 personnes. Pourquoi ? Parce qu'on peut gérer le culte. Parce qu'on est suffisamment nombreux pour pouvoir le faire. Si on était 30 ou 40, impossible. 30 ou 40, impossible. On ne peut pas avoir une personne qui prêche là, une personne qui prêche là. Enfin, une personne qui a un anniversaire ou un événement familial et une personne qui prêche là-bas. À 30, tu ne peux pas le faire. C'est bon ? J'ai marqué Christophe aussi. Christophe, voilà, régulièrement dans le pays de Montbéliard ou dans le Haut-Doubs, il va prêcher. Ici, je suis content de te voir, mais ça ne change rien. Johanna, elle n'est pas là, ça ne change rien. Parce que, enfin, c'est pas que ça ne change rien, mais c'est que le dimanche où on n'est pas là, c'est faisable. Si on était 30 ou 40, ce n'est pas possible. C'est bon ? Donc ça permet d'avoir et des ministères spécialisés, dans le sens qu'aujourd'hui, je l'ai marqué là. Et j'avais même pas réfléchi, j'ai pris 2 secondes pour le faire. J'ai pris, 1 minute pour le faire. Version pour les nuls. Qu'est-ce qu'on attend d'un pasteur ? Je vous le lis comme ça. Qu'il soit un expert de la parole de Dieu, qu'il prie, qu'il intercède, qu'il soit un bon prédicateur, qu'il fasse les visites pastorales, qu'il évangélise, qu'il dise bonjour, évidemment, qu'il soit un bon communicant, qu'il soit un bon gestionnaire, qu'il soit un directeur administratif et financier, qu'il puisse répondre aux mails, qu'il puisse gérer la responsabilité par rapport aux autorités civiles, qu'il puisse être jardinier s'il y a des plantes qui ne vont pas, qu'il puisse mettre les chaises, qu'il soit un expert dans le bâtiment, qu'il soit un conseiller conjugal, qu'il soit expert auprès de la jeunesse, qu'il puisse comprendre ce qui se passe pour la sono, qu'il soit évidemment un bon papa, un bon époux. Qui puisse, par rapport à la louange, éventuellement conduire la louange s'il y a besoin, qui puisse gérer les paroles prophétiques, qui puisse répondre aux demandes des autres églises, qui puisse bien faire l'accueil, qui puisse serrer les mains, qui puisse discipliner les gens s'il y a besoin, qui puisse faire les préparations mariage, les préparations baptême et les services funèbres. À un moment, vous dites, soit le gars c'est un surhomme, soit il va mal finir. Je plaisante, mais quand vous êtes 30 ou 40 ou 50, c'est ça. OK ? Et ils disent les chiffres, je crois que c'est 10, 20% des gens qui ont commencé pasteur à 25 ans qui finissent à la retraite en étant encore pasteur. Parce que si j'ai tout ça à faire et que je suis 30, moi, j'aurais pas pu, réellement. Je le sais avant. Je sais déjà toute la liste de ce que je fais pas ou pas bien et où je pense que je suis pas appelé à ça. Et aujourd'hui, je peux me permettre de ne pas le faire parce qu'on est assez nombreux et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et je crois que par la grâce de Dieu, demain, on sera encore plus nombreux. Il y en a d'autres qui pourront le faire encore mieux que moi. Amen. Mais ça, je ne dis pas ça pour nous, pour se plaindre ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est bon ? Donc j'ai mis ministère spécialisé, après j'ai mis équipe pastorale, donc ça c'est pareil quand on est plus petit, mais si vous n'êtes que 20, d'avoir 3 pasteurs, si on est 20 personnes, c'est peut-être plus compliqué. Parce que les 20 personnes, s'il y en a 18 ou 19 qui sont des nouvelles personnes, des conversions, ben, il y a les étapes à faire avant d'avoir la maturité, l'enseignement, etc., avant de pouvoir être un pasteur ou un ancien de l'église locale. C'est bon ? Cette semaine, je reçois un mail, une page et demie le mail, sur quelqu'un qui me... donc, je ne rentre pas dans les détails, mais quelqu'un qui a responsabilité dans une église à l'autre bout de la France. Un bon mail, hein, franchement. Et puis, la personne, super intéressant, les questions et tout sur la structure de l'église et tout ça. Et en fait, elle nous connaît. Mais je me dis, mais comment elle nous connaît, quoi ? Comment elle connaît ça aussi bien ? Et elle me dit qu'elle a lu les cours sur les cours d'école biblique en ligne. Bah, je lui dis, ils ne sont pas en ligne, les cours d'école biblique. Alors. Et puis, honnêtement, quelqu'un vraiment qui... Et puis, je me dis, elle a bossé le truc. Elle voit... voilà. Du coup, je lui dis, mais écoutez, les cours, ils ne sont pas en ligne. Alors, comment vous avez eu les cours ? Elle m'envoie un lien. Et en fait, c'était le lien d'ACBM Campus, quand moi, j'avais fait une fois 2-3 heures sur les ministères, la structure de l'église, comment on voyait les choses, etc. Sauf que ça, il y a un code. Les étudiants, ils ont un code. Donc, je me suis dit, bah, y a un étudiant qui a filé le code à quelqu'un d'autre. Ça ne me gêne pas outre mesure, mais en école biblique, en formation, je vais être encore plus libre le dimanche matin de pouvoir dire ce que je veux. Donc, on explique aux gens, qu'on dit c'est un moment de formation, on veut pouvoir donner des exemples en citant les choses. Quand je suis en prédication publique comme ça, je ne le fais pas. Je ne vais pas dire des noms d'églises ou des noms de choses. On est d'accord. Quand c'est une formation, ce n'est pas pareil. On est là pour apprendre et pour comprendre. Et pour voilà. Et du coup, je me dis, mais comment elle a eu le cours et tout ? Et en fait, c'était en ligne. Et je me rends compte que c'était en ligne. Alors que normalement, ce n'est pas en ligne. Donc, normalement, on a corrigé, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai quelqu'un qui a juste tapé sur Internet, structure, non, comment ? Fonctionnement ou structure, organisation de l'église ACBM. Et du coup, elle est tombée sur la formation-là. Super ! Mais sauf que j'ai une page de questions. Et comme c'est des vraies questions et que tu vois que c'est quelqu'un qui, voilà, qui cherche vraiment, ben j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de répondre, j'ai envoyé des ressources, envoyé des liens, etc. Et je me dis, mais si on peut le faire, c'est parce que j'ai eu 1 heure ou 2 heures pour le faire. Et je peux le faire parce que dans l'église, en tout cas la partie qui tourne, elle tourne. Si je devais me soucier que le ménage avait été fait, si je devais me soucier que le groupe de maison il avait eu lieu, si je devais me soucier que les reçus fiscaux étaient faits, alors ça je m'en soucie, mais voilà. Mais si je me souciais de tout le reste, je ne peux pas prendre 2 heures pour répondre à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. C'est bon ? Et ça, on l'a de plus en plus. Je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais je veux vous le partager, je veux nous le partager, parce qu'on croit que ça fait partie des choses de l'Église. C'est qu'aujourd'hui, on est souvent sollicité pour des sujets comme ça. Mais comment vous fonctionnez ? Comment ça marche ? Comment on peut avoir... parce que comme Johanna, il y a le côté visible, comment elle peut être là-bas et, pardon. Et en même temps, l'église, elle tourne chez vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elle gère 90% de l'église. Donc du coup, on lui dit, ben, elle n'est pas toute seule. Il y en a d'autres, on voit moins leur tête, mais elle n'est pas toute seule. Et les trucs qui tournent. Et merci Seigneur, et merci aux frères et sœurs qui font que tout ça, ça tourne. Et tout ça, c'est possible grâce à vous, grâce à nous. Et ça nous permet aussi de répondre à d'autres messages sur lesquels aujourd'hui, on est de plus en plus sollicités. J'ai un autre frère dans le sud. Donc là, il y en avait une dans le nord de la France, un autre dans le sud. Même question. Quasiment les mêmes questions. Avec un projet d'implantation, avec des gens qui sont dans le ministère depuis 30 ans. Depuis 30 ou 40 ans, ils sont dans le ministère. Et ils me disent, tu penses que je devrais être... On se tutoie maintenant. Ils me disent, tu penses que je devrais être à la retraite ? Je dis, mais surtout pas. Surtout pas, ça fait 30 ou 40 ans que tu galères. Profites-en pour faire quelque chose maintenant. Ou voilà. Est-ce que je peux t'aider ? Je peux t'aider, mais à distance. Pardon. Je peux t'aider, mais à distance. C'est bon pour ça ? Par rapport au nombre, les dons sont pleinement déployés dans les 6 caractéristiques d'une église un peu plus grande. Les dons sont pleinement déployés. Je vous laisse, c'est aussi une citation, Tim Keller, il a fondé une église à New York. Je vous laisse la citation, je vais la lire doucement. À méditer. Pour rendre les choses simples, dans une petite église, les décisions sont prises par un grand nombre de personnes. Et le ministère est effectué par quelques-uns. Dans une grande église, par contre, le ministère est accompli par beaucoup et les décisions sont prises par un nombre réduit. Je reformule, c'est bon. Petite église, tout le monde décide. Et le ministère, il est fait que par quelques-uns, ceux qui ont un peu plus de maturité ou le pasteur. Église qui grandit, église plus grande, le ministère, il est fait par tout le monde. Parce qu'on s'attend à avoir beaucoup plus de gens formés, beaucoup plus de gens au stade de jeunes hommes et d'adultes. Puisqu'on est une plus grande église. Donc le ministère, au lieu d'être exercé par juste quelques personnes, il est exercé par tout le monde. En gros, par vous. C'est bon ? Les visites pastorales, les encouragements, le prendre quelqu'un pour l'amener, pouvoir prier pour quelqu'un, quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, quelqu'un qui a besoin de la banque alimentaire, tout ça. Mais c'est les frères et les sœurs de l'Église qui le font, qui exercent le ministère. Et l'équipe pastorale, c'est entre guillemets, elle prend les décisions. Vous voyez la différence ? C'est pas qu'on veut pas le faire. Et je me suis posé la question, j'ai fait les préparations baptême, et franchement, je trouve ça génial de faire les préparations baptême. Alors, il y a Mélanie qui était là aussi pour participer aussi. Et avec Denis, on a fait les préparations baptême, et j'aime ça. Et j'aime écouter les témoignages, aider les gens à rédiger leurs témoignages, parce que c'est chaque fois la grâce de Dieu, la conversion et tout ça. Et en même temps, j'ai des gens d'église, de responsables d'église qui nous contactent, qui nous consultent, qui ont besoin, qu'on les accompagne, qui ont besoin de conseils. Et comment vous feriez ça ? Les deux sont très importants. Mais aujourd'hui, dans une taille d'une église comme la nôtre, on doit avoir des gens qui sont capables de répondre aux nouveaux convertis et de les accompagner. Et je sais qu'on en a. Mais aujourd'hui, du coup, ou demain en tout cas, demain, je pense que c'est moins au ministère de l'église, c'est moins à nous de le faire. Parce que c'est à vous de le faire. Il n'y a pas de nous et de vous, hein, c'est pour comprendre et pour expliquer. On est d'accord ? Ça va ou pas ? Les premiers pas de la foi, si je suis chrétien depuis un certain temps, normalement je peux les expliquer à quelqu'un d'autre. En tout cas, dans l'évangile, c'est marqué comme ça. Amen. Je continue. Oui, dans plein. Bon, ça c'est bon. Il y a des sous-groupes. Le fait d'être plus gros, ben, ça veut dire qu'il y a des sous-groupes. Ça veut dire que ben, le groupe de louange, c'est un groupe. Groupe de maison, ça va être un autre groupe. Il y a plus de sous-groupes, puisque l'église est grande et qu'on ne peut pas connaître tout le monde. Il y a une excellence qui est recherchée, qu'on peut moins avoir si je suis 20. Si je suis 20 et que je fais une vidéo au fond de mon garage, à part avoir dans les 20 trois personnes spécialisées dans les vidéos, dans le son et dans tout ça, c'est plus compliqué. Alors que quand on est plus gros, ben, on peut aller rechercher un peu plus d'excellence. Ils disent que dans les grosses assemblées, alors ce n'est pas le cas ce matin, et je pense que le chiffre il est un peu important, alors peut-être parce qu'on est sur la fourchette basse, mais ils disent qu'il y a 20% de gens dans les grandes assemblées qui sont des visiteurs ou des non-croyants. Et ça veut dire qu'une des priorités, c'est qu'on puisse répondre à ces 20% de personnes. Visiteurs et non-croyants. Ça veut dire que sur une église, si on est 200, ça veut dire qu'il y a quand même 40 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 40 personnes qui visitent. Alors, soit qui visitent parce qu'ils ben, sont de passage, et si on peut les bénir une fois, ben, bénissons-les. Et si on peut leur importer, leur donner quelque chose, on leur donne. Et aussi, évidemment, des inconvertis. Chose que je n'ai pas si on est 20. Si on est 20, j'ai rarement 5 personnes nouvelles à chaque fois. Ou 4 personnes. Et il y a un changement dans le style de direction, et nous, on est en train de le vivre et de le sentir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé les cinq, mais on peut le formuler. Je pense que je peux parler au nom des cinq. C'est qu'il y a un changement aussi dans la manière de conduire. On le sent qu'il y a un changement, on sent qu'on est sur des étapes, sur des seuils, sur des paliers, sur des évolutions. C'est juste qu'aujourd'hui, les choses changent. Nous, on le voit, et je pense qu'il y a une partie où nous, vous, sommes responsables de ça, et de participer à ça, et d'aider à ça. Je vais y venir après. C'est que pour avoir des pasteurs qui font bien le job, ben il faut une église qui fasse bien le job. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On vous remercie profondément, mais on doit encore passer des étapes. Quand je formule ça, c'est pour expliquer, parce que j'ai pensé beaucoup à ça. Quand je formule ça, c'est pour expliquer. Il n'y a pas le peuple, les pasteurs et Dieu. Ça, il n'y a pas. Il y a le peuple avec des gens qui ont des onctions, des ministères particuliers, et il y a Dieu. Et à un moment donné, n'imaginons jamais qu'il y a les gens, les pasteurs et Dieu. Si vous faites ça, mais parfois dans nos milieux, on a tendance un peu à ça. Je vais y venir après. Est-ce que c'est bon pour ça ? Dernier point, quelques freins à la croissance. Quelques freins à la croissance. J'avais fait une liste, et en fait, je veux pas faire la liste, je vais vous la dire, mais c'est juste comme ça, et elle n'est pas forcément exhaustive. Mais il y a deux points que je veux souligner ce matin, et ce sera le dernier point. Dans les freins à la croissance, il y en a un, c'est le péché, clairement. Et là, ça marche que ce soit en tant qu'individu, de personne physique. Donc je te reprends, Christophe. Si, Hippolyte. Voilà. Là, si je prends. Il n'y est pas, hein, il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'appelle Hippolyte. Hippolyte. S'il a du péché dans sa vie, ça va être un frein à sa croissance. Parce que c'est l'obéissance des choses de Dieu qui vont nous aider à grandir. Si l'Église, si c'est ACBM Hippolyte, où il y a des gros péchés dans la vie de l'Église, des choses qui ne vont pas, ça va empêcher la croissance de l'Église. Ça, ça fait partie des freins. L'immaturité, ça fait partie des freins. Et celui-là, je me le suis mis. Si à 40 ans, j'habite encore chez maman et que je ne travaille pas, il y a un problème d'immaturité. Alors, ça peut arriver pendant une période de vie, ce n'est pas ça le sujet, mais ce n'est pas la voie normale. Et parfois, en tant que peuple, parfois en tant qu'individu, on voudrait rester un peu immature. Ma femme n'est pas là. Moi, j'étais bien chez ma mère. Elle cuisinait bien. Je rentrais que le week-end. Au début, j'étais étudiant, je rentrais le week-end. Elle me faisait des légumes en me disant « La semaine, tu ne manges pas assez de légumes. » J'ai dit « Alors attends, si je rentre le week-end, ce n'est pas pour bouffer des légumes. » Et je lui dis « Si tu veux que je continue à rentrer le week-end, tu vas me faire autre chose que des légumes. » Et du coup, j'étais bien. Mais à un moment donné, ce n'est plus normal. Est-ce que c'est bon ? Oui ? Et j'ai peur que parfois, en tant qu'individu, dans notre vie avec Dieu, alors parfois dans la vie tout court, mais ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais j'ai l'impression que parfois dans notre vie avec Dieu, on est bien. On reste un peu là où on en est. On a à peu près les bases, on essaye de ne pas faire trop de gros péchés, ou en tout cas que ça ne se voit pas trop, puis on est bien. Tu vois, on reste là. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Et donc ça peut être vraiment un frein. Idem pour l'Église. Pour l'Église, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je sais, pour en avoir discuté aussi avec certaines, c'était mieux avant. Le « c'était mieux avant », je ne le supporte pas. Le « c'était mieux avant », c'est le peuple juif qui a été libéré et qui dit que c'était mieux avant, alors qu'avant, c'était l'esclavage. Mais on a toujours cette pensée « c'était mieux avant ». Parce qu'avant, ça nous rassure. C'était pas mieux. Hein. Honnêtement, il faut arrêter avec ça. C'était pas mieux avant. C'était avant. Et aujourd'hui, moi, quand je me dis ça, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais loin, hein. ça veut dire que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, tu ne le reconnais pas. Tu ne chopes pas ce que Dieu est en train de faire si tu penses que c'était mieux avant. C'était différent, je peux l'entendre, je sais que c'était différent, mais aujourd'hui Dieu est en train de faire des choses, on ne va pas les empêcher, les bloquer, ou ne pas rentrer dedans, parce que dans ma petite tête, je crois que c'était mieux avant. Et même si c'était vrai, ce n'est pas le sujet, c'est qu'aujourd'hui on essaye de vivre et de caler sur ce que Dieu est en train de faire. Amen. J'ai mis la routine dans les freins, j'ai mis la routine, j'ai mis la formation. C'est que la formation réellement, la formation des choses de Dieu et la formation au sens encore plus large, c'est que si je n'ai pas des formations, je ne peux pas gérer les choses. Il y a des choses aujourd'hui qui demandent un tel niveau de compétence que si je ne suis pas formé dedans, je ne peux pas les appréhender, je ne peux pas les gérer. Et réellement aujourd'hui, et c'est sans orgueil, quand on est sollicité par d'autres églises, il y a des moments où ils me posent des questions, mais je peux leur répondre tout de suite. Et là-dessus, je n'ai aucun problème pour répondre. Parce que c'est des choses où j'ai été formé, où Dieu m'a travaillé, où par la grâce de Dieu, à travers ce qu'on gère dans l'église locale aujourd'hui, c'est des choses que je sais faire. Et c'est sans orgueil que je le dis. Mais parce que j'ai été amené à gérer ça. C'est bon ? Donc cette formation-là, il faut aller la chercher. Une formation dans les choses de Dieu, dans notre caractère qui est transformé, dans les choses de Dieu évidemment, mais aussi en dehors. Si tu as un service, il n'y a rien. Et on ne va pas t'interdire de faire quoi que ce soit. Hein. T'es responsable du parking, t'es serviteur du parking. Je ne vais pas dire que tu peux faire ce que tu veux, mais si un jour tu veux filer une fleur quand les gens ils arrivent, si un jour tu veux laver la voiture, si un jour tu veux, tu n'auras pas de limite avec nous. Si tu veux regarder toutes les vidéos qui existent sur le monde sur comment est-ce qu'on peut mieux gérer le parking, tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Ce n'est pas nous qui allons t'empêcher de le faire. On est d'accord ? Oui ? Tu veux donner un verset biblique quand les gens ils arrivent ? Tu veux mobiliser l'équipe prophétique, l'église d'intercession, en disant on va faire 50 ou 80 ou 100 versets bibliques qu'on va donner dimanche quand ils arrivent. Mais moi, je ne vais pas t'en empêcher. Hein. Par contre, ne me demande pas à moi de le faire. Hein. Est-ce que ça, c'est bon ? Donc, la formation. Et donc, les deux sujets sur lesquels je voulais venir, mais rapidement, il y en a un, c'est la peur. C'est que, mine de rien, quand on veut changer, quand on veut grandir, il y a la peur, il y a l'appréhension. Je pense que pour certains nombres de gens, ça peut être ça. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus se fait appeler le prince de paix. C'est même pas il se fait appeler, c'est il est le prince de paix. Donc si j'ai le prince de paix avec moi, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Et la deuxième chose, c'est que parfois quand on a peur sur des choses nouvelles, parfois quand on a quelqu'un qui vous dit « n'aie pas peur, je vais t'accompagner, je vais gérer », on a moins peur. La première fois, si vous avez un grand frère ou une grande sœur qui vous a fait faire des choses où on avait une appréhension ou une peur, peut-être que le grand frère ou la grande sœur ou le parent, si c'était un parent, ça a aidé à surmonter ça. Donc aujourd'hui, la peur, ça peut être un sujet. Alors nous, les cinq ministères, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur, c'est plus je ne sais pas où on va. Mais ça, j'ai tellement confiance en Dieu que amen et alléluia. Par contre, le truc que une des choses où j'ai une appréhension, ce serait de louper ce que Dieu il a prévu. En tant que corps, en tant qu'église, moi, ça fait partie des appréhensions que j'ai. Et je vais plus loin, c'est que ça fait partie des choses qu'on ne permettra pas, de louper ce que Dieu il a prévu pour notre église. Et le deuxième sujet, et c'est en lien avec celui-là, alors désolé les cinq, hein. Je vais expliquer. La faute à vos humbles pasteurs, dans un frein à la croissance, c'est la faute en fait des gens et c'est la faute des pasteurs. C'est que j'ai l'impression que souvent, vous nous avez considérés comme une réponse à des choses que vous auriez dû demander à Dieu. C'est-à-dire que moi, des fois, on me pose des questions et je me dis, mais ça, c'est à toi à chercher avec Dieu. Pourquoi tu viens me demander à moi ? Moi, je ne suis pas un intermédiaire avec Dieu et toi. Toi, tu peux parler directement à Dieu, tu dois parler directement à Dieu, tu dois chercher Dieu pour toi. Pourquoi tu me demandes à moi ? Et je pense que, de l'autre côté, ça c'est la faute des gens, et je l'ai fait. Je suis allé chercher, j'avais un sujet de prière, une demande, ben, je demande à un homme de Dieu, parce que je me dis, ben, lui il a la sagesse, lui il a un lien direct, je ne me le dis pas comme ça, mais je me dis, lui il a peut-être un lien direct, ou un prophète, c'est encore mieux, s'il peut vraiment me donner la réponse. Et du coup je vais voir la personne, au lieu d'aller voir Dieu. Ça c'est notre faute à nous, au peuple. Et la faute des pasteurs, c'est qu'ils vous répondent. La faute des pasteurs, c'est qu'ils vous répondent, au lieu de vous pointer à Dieu. Et de vous dire, vous prenez, on a tous le même bouquin, vous allez chercher dans le bouquin. Et si après tu veux qu'on en discute, on échange dessus et on en discute. C'était quoi ? C'était en Corée où ils disaient avant d'avoir un entretien, c'est 40 jours de jeûne. Je ne sais plus ce que c'était. Mais vous résolvez tous les problèmes. Résolvez tous les problèmes. Donc quand je dis la faute à vos humbles pasteurs, humble c'est un peu d'humour, et faute des pasteurs, c'est parce qu'on ne devrait pas vous répondre. Et je me rappelle l'avoir fait, alors je n'ai pas demandé si vous pouvez témoigner, mais voilà. J'ai une fois une sœur de l'église qui s'occupe des jeunes, qui vient me voir et qui me dit, en début d'année, je voudrais prendre. Qu'est-ce que tu en penses si je prends telle personne pour m'aider dans le groupe de jeunes ? Et du tac au tac. Alors je lui ai dit plus gentiment, mais c'est pas mon problème. Moi je veux savoir qui tu prends, parce que si c'est un frère ou une sœur qui a des gros problèmes dont on est au courant, et que par exemple avec les enfants ça va pas, on va te le dire. Non, cette personne, non. Par contre, le reste, si c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est pas mon problème, c'est à toi à décider. C'est à toi à choisir. C'est à toi à avoir la pensée de Dieu, est-ce que tu vas travailler avec lui ou elle ou pas. C'est toi qui es responsable des jeunes, tu te débrouilles. Et vous savez ce que ça change ? C'est que la responsabilité, elle n'est pas sur moi. Donc moi, je dors mieux, ça me fait un peu moins de responsabilité. Mais surtout, ça bascule la responsabilité sur elle. Et c'est à la sœur d'aller chercher la réponse auprès de Dieu. Et je lui dis, c'est toi qui vas travailler avec tous les jours, hein, ou chaque fois qu'il y aura les jeunes. C'est pas moi, hein. Donc si toi, la personne, elle ne va pas, au lieu de me disputer moi, tu vas disputer toi toute seule, ce sera ton problème, et c'est toi qui vas être au quotidien avec. Donc c'est à toi à chercher la pensée de Dieu si cette personne, tu t'as à cœur ou pas, et que Dieu te parle. Et ce n'est pas à moi à te dire. Est-ce que vous comprenez la différence ? Je vous donne deux, trois exemples là-dessus. Par rapport à l'image du pasteur où on a l'impression que c'est des questions-réponses. Je vous donne un exemple dans mon travail. Dans mon travail, un jour, il y a quelqu'un qui a mon numéro de téléphone professionnel, il m'appelle. Et il commence tout de suite en posant une question. Donc moi, je fais du conseil sur les entreprises, les personnes, etc., du fiscalité, tous ces sujets-là. Et il me pose une question, mais une question directe. Tac. Ben, je lui dis, monsieur, je ne vous connais pas. Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je prends rendez-vous avec des clients, je prends rendez-vous avec des gens. On voit ensemble une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, le temps qu'il faut, c'est quoi vos problématiques. On voit si je peux vous accompagner ou pas. Et je vous fais un devis. Voilà. Donc j'explique ça au téléphone. Et la personne, elle continue avec une autre question. Et je lui dis, mais écoutez, enfin, je ne vous répondrai pas. Et il me dit, c'est parce que vous ne savez pas. Mais je lui dis, ce n'est pas le sujet, monsieur, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est qu'on se rencontre, on prend une heure, deux heures, c'est gratuit. À la fin, je vous fais un devis si je peux vous accompagner ou pas, et là, on voit. Et il me pose une troisième question. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème, et je lui dis, écoutez, moi, je vous conseille, vous vous rapprochez, mais je l'avais déjà dit peut-être, vous rapprochez d'une maison d'édition juridique, et vous prenez un abonnement. Un abonnement, c'est que vous payez 300 balles tous les mois, et vous avez tant de questions. Tant de questions pour les impôts, tant de questions. Et vous posez votre question. Vous n'avez pas besoin d'un conseiller. Vous avez besoin de réponses. Et nous, dans l'Église, parfois, c'est pareil. Les gens viennent voir les pasteurs pour avoir la réponse à leurs questions. Et réellement, ce n'est pas ça. Et nous, là où on se trompe, c'est de vous répondre. Parfois avec de la sagesse, parfois en étant inspiré de Dieu, ou le plus souvent, en tout cas, on y travaille. Mais au-delà, réellement, je pense qu'on ne doit pas vous répondre sur certaines choses. Et vous renvoyez, vous, à chercher Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui nous permet de passer du jeune enfant au jeune homme et du jeune homme à l'adulte. Amen. Et je pense qu'il y a des pasteurs, pas ici par la grâce de Dieu, mais je pense que parfois il y a des pasteurs où ça leur plaît parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un côté indispensable. Moi, je suis le sachant et je vais vous répondre. Et c'est du péché. Et si on veut grandir en tant qu'église et en tant qu'individu, c'est qu'on vous pointe vers Jésus, qu'on vous pointe vers la parole de Dieu, qu'on vous encourage à chercher. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui? J'ai pas un oui franc et massif. C'est à peu près clair ou pas? Oui? Merci. Et pourquoi je vous dis ça, et le lien, et c'est la boucle, c'est que c'est le même sujet en fait en tant qu'individu qu'en tant qu'église. C'est que quand on passe tout notre temps à répondre, et ce n'est pas pour viser les gens, je ne vise pas l'assemblée, mais si le pasteur, alors où on est ailleurs, si le pasteur il passe tout son temps à répondre à des bébés spirituels, parce que les bébés spirituels refusent de passer à l'âge de jeune adulte, eh bien le pasteur qui fait ça, il perd son temps et il passe à côté de la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est moi, c'est ça que j'appréhende. C'est hors de question que je passe à côté de la mission que Dieu nous a donnée. Alors, nous en tant qu'individus, nous en tant que responsables, nous en tant qu'église, nous en tant que corps, nous en tant que tout ça. Si Dieu, imaginons dans 40 ans, j'arrive, alors je prends pour moi. Moi, j'arrive devant Dieu et je dis à Dieu, voilà, ben, c'est lui qui va me sortir la feuille. Voilà tout ce que tu as fait. Et moi, je vais me dire, ah, c'est pas mal. Et lui, il va me dire, ouais, mais moi, je t'attendais là. Moi, je voulais que tu fasses ça. Vous imaginez? Et moi, je vais lui répondre quoi? Je vais lui dire, ouais, mais je me suis occupé de bébés spirituels. Et si Dieu il me dit, ouais, mais c'est pas ce que je te demandais. À un moment donné, les bébés, ils doivent grandir. À un moment, le jeune homme, il doit passer à l'âge adulte. Etc. Est-ce que ça, tout ça, c'est clair? Le dernier exemple pour ça, où ça change la responsabilité, et je me suis imaginé la scène. Pour éclosion, j'ouvre la parenthèse, je la referme, dernier exemple. Éclosion, on a dit cette année, c'est offert. C'est pas gratuit, c'est offert quand vous inscrivez en ligne. Alors vous le savez, vous faites partie de l'église. Mais j'imagine les gens de l'extérieur. Il y a marqué, en ordre de grandeur, ça coûte 60 euros par personne. Et j'imagine tout le monde qui s'inscrit. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis imaginé ça, en me disant, ah ben moi je suis de l'église, il faut que je donne 60, sinon ça va se voir. Ou l'autre qui va se dire, ah ben moi c'est offert, je peux donner 0. Ah ben je donne 0, je suis trop content. Ou l'autre qui va se dire, ouais, moi je donne 40, c'est déjà pas mal, ils ont qu'à mettre un peu moins de lumière et offrir un peu moins de café. Et l'autre, et en fait, je me suis imaginé 15 réponses de gens qui s'inscrivaient. Et vraiment, j'ai rigolé tout seul. Et je sais que ça s'est passé comme ça en plus, je sais. Et du coup, mais c'est tellement drôle. Mais vous savez ce que ça change? C'est que c'est pas à moi, c'est pas à nous à nous occuper, entre guillemets, du financement. C'est les gens, en fait. C'est les gens qui s'inscrivent qui font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, je comprends bien sûr qu'il y a des circonstances de vie. Je sais qu'il y en a une qui s'inscrit, qui a dit « moi j'ai déjà les frais de déplacement, les frais de logement, je ne vais pas encore payer l'inscription ». C'est sûr, mais amen, merci Seigneur. Et si on peut l'accompagner demain pour qu'elle puisse participer à l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais je referme la parenthèse. Mais du coup, vous voyez que ça change les choses, parce que ça met les gens, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Alors si je dis à tout le monde c'est 40 ou 60 euros, tu payes pas et c'est fini. Et ça aurait été probablement plus facile. Mais je pense qu'on est en train de grandir dans cette mentalité-là, de dire c'est aux frères et aux sœurs de décider. Et c'est vous, chacun, qui décide devant Dieu. Ce sujet-là, je ferme la parenthèse, c'est un exemple. Et cet exemple-là, je trouve qu'on l'a très souvent dans notre quotidien. Je reprends mes trois points en conclusion. La première idée, c'était comprendre que nous devons grandir. En tout cas, l'équipe pastorale, elle veut que nous grandissions. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, de serviteurs de groupe de maison, de frères et sœurs de l'Église qui veulent grandir. En maturité, en nombre, ce n'est pas pour être une plus grande église, c'est pour être capable, de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des ministères plus spécialisés, de pouvoir répondre au corps dans son ensemble, que quand on est invité à gauche ou à droite, parce que quand on est invité, je ne l'ai pas dit, mais quand on est invité, c'est parce qu'on apporte quelque chose en plus. Sinon, on ne nous inviterait pas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est qu'il y a une onction particulière, c'est qu'il y a le fait d'y aller à plusieurs, mais les gens, à chaque fois, ils hallucinent. On avait un Patrick qui s'appelle, là, en Suisse, Patrick, un gars qui s'occupe juste de nous accueillir. Et pendant 3 jours, il est à notre service. Et chaque fois, j'imagine faire des blagues. Tu sais, en arrivant en état odieux, orgueilleux et tout. Chaque fois, j'ai envie de faire des blagues. Et Joanna, elle me dit, non, arrête, on ne connaît pas, arrête. Mais non, mais t'arrives, le gars est là pour te servir, en fait, pour tester sa patience. Tu vois? Bah, ça va. Non, mais ça va. Et du coup, mon Patrick, là, on arrive, et puis il nous voit, il nous aide pour nous garer et tout. Mais il est vraiment gentil, et tu sens que le gars, il est sanctifié, tu sens qu'il est patient et tout. Et je lui dis, vas-y, le soir, on est obligé de faire quelque chose. Donc, le vendredi soir, la prédication, tout ça, ça finit à 22h15. Et après, ils ont un village à côté où il y avait des exposants. Donc, jusqu'à minuit, il y avait le village ouvert autour. Nous, on rentre là où on dormait. Il est 23h, 23h15, on mange. Je dis, vas-y, on fait la blague à Patrick. Donc, on téléphone à Patrick, 23h15. Et on l'appelle pour lui dire, bah, écoute, on est arrivé au BNB, c'était fermé. Johanna et moi, et Pierre, Johanna et moi, on a trouvé un hôtel pour dormir. Par contre, les cinq autres, on n'a pas d'endroit où les loger. En 23h15, je me dis, pour voir si le gars, il est... Vous savez ce qu'il nous répond ? Je vais trouver une solution. Il y a ma mère qui habite pas loin, je vais vous loger chez maman. Et là, et après, on lui dit que c'est une blague, il comprend que c'est une blague et tout. Et vous voyez, vous avez des gens en face qui sont... Et le gars, il a fait quoi pendant 3 jours de sa conférence ? Juste, il était à notre service. Pour nous accueillir, pour nous aiguiller, parce qu'il y a beaucoup de monde pour tout ça. Amen. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour ça qu'on veut grandir, pour avoir des gens qui sont capables de faire comme Patrick. Amen. Il y a des seuils, il y a des étapes, on l'a vu pour les personnes physiques, on l'a vu pour l'Église. Église, il y a des seuils de croissance, voilà. Les freins, les appréhender. La peur, on est avec le prince de paix, donc celle-là, on peut la mettre de côté. La faute de vos humbles pasteurs et la faute de vous qui allez demander à votre responsable, à votre serviteur de groupe de maison ou à votre pasteur la réponse à votre prière. Moi, alors déjà, les gens ne viennent plus vers moi parce qu'ils ont compris que je ne répondais pas. Mais cherchez auprès de Dieu. Cherchez auprès de Dieu. Et la réponse sera meilleure. Amen.